Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous vous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va passer du temps dans la parole ce soir. Vous êtes prêts? J'ai dit, vous êtes prêts à passer du temps dans la parole ce soir? Vous savez, de notre attitude dépend vraiment de ce que nous allons recevoir du Seigneur. Quand on vient avec une soif de Dieu, obligatoirement Dieu répond à notre soif. Amen. Et ça, c'est important. Quand on a vraiment des questions et qu'on a un bon cœur, immanquablement Dieu va nous parler. Et rappelez-vous que la première des façons avec laquelle, par laquelle Dieu vous parle, c'est par quoi ? Sa parole. Sa parole est une valeur sûre. Sa parole est immuable. C'est elle qui transforme nos vies. C'est elle qui nous enracine en Christ. Qui nous stabilise avec puissance. Sa parole ne se trompe jamais. C'est notre standard, notre référence. Parfois, on peut recevoir des prophéties. Et c'est bien, gloire à Dieu. Mais parfois, même les hommes qui donnent des prophéties peuvent se tromper. Ça peut arriver. Même Kenneth Hagin disait, il peut m'arriver de me tromper. Et il disait toujours, vous devez vérifier. Vous devez écouter votre nature spirituelle. Parce que le canal peut être imparfait quand il y a une prophétie qui est donnée. Par contre, ce qui demeure éternellement et qui ne se trompe jamais, c'est la parole. Amen. C'est pour ça que régulièrement, vous devez être renseigné dans la parole. On doit plonger nos regards dans cette parole. Et on doit continuer de le faire jusqu'au restant de nos jours. Vous savez, dans notre vie spirituelle, vous avez remarqué qu'il y a des moments où vraiment on a soif d'étudier la parole, de lire la parole. Et il y a des moments où on a moins soif. Vous avez remarqué ça ou pas? Vous avez remarqué ça? Et bien vous verrez que quand vous avez moins soif d'étudier la parole, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on commence à se refroidir dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'il est important de régulièrement être alimenté et nourri par la parole. Parce que ça doit nous stimuler. Et on doit revenir à ce moment-là. À dire non, Seigneur, moi je veux avoir soif de ta parole encore. Je veux passer du temps avec ta parole. Et ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on doit prier en disant Seigneur, pardon, je suis en train de m'éloigner de ta parole. C'est pour ça qu'il faut toujours venir régulièrement au Seigneur. Et particulièrement passer du temps avec sa parole. Quand on passe peu de temps avec la parole, ça veut dire qu'on passe peu de temps avec le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est sa parole. Bravo Steve, tu me traduis, tu m'interprètes vraiment à toute vitesse, c'est très bien. Alléluia. Ce soir, on va regarder un passage dans Jean chapitre 16. Et nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. Et nous allons découvrir le rôle du Saint-Esprit et la prière. Parce que ça, c'est vraiment important. La prière. Le rôle du Saint-Esprit dans la prière. C'est entre autres une partie de mon sujet ce soir. Alors, on va regarder ensemble juste la fin du chapitre 15 au verset 26. Et on va faire une longue lecture ce soir, c'est pas courant, mais là on va en faire une longue, du verset 26 jusqu'à 16, verset 22.
Turahera kuri Yohana 15 mirongo 26 gushika kuri 16 Yohana umurongo wa 22.
Donc 15:26 jusqu'à 16:22.
15 umurongo wa 26 gushika ku gice cya 16 umurongo wa 22.
Je vais lire en français. Quand il sera venu le consolateur. Vous savez tous que le consolateur c'est le Saint-Esprit. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Verset 27, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16, verset 1, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux. Tout le monde dit avantageux. Plus fort, avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, c'est là où ça va beaucoup nous intéresser ce soir, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, ou une meilleure traduction, guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples diront eux-mêmes, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps, et nous ne savons pas de quoi il parle. Verset 19, Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Verset 20, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Alors, nous avons lu ce grand passage. Parce qu'il nous enseigne sur beaucoup, beaucoup de vérités. Ce soir, je vais prendre une partie de ces vérités, bien sûr, parce qu'on n'aura pas le temps de tout étudier. Mais il y a des choses qui sont vraiment indispensables à connaître et à vivre dans votre vie spirituelle. Des fondations qui doit vous permettre de diriger votre vie avec le Saint-Esprit, votre vie de prière avec le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais réussir et glorifier le Seigneur dans votre vie si vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Et quand je dis comprendre, ce n'est pas seulement comprendre avec l'intelligence en disant « Oui, ça je le sais, je l'ai déjà entendu. » Vous savez, il faut se méfier de l'orgueil spirituel. Moi, je vois certains chrétiens, on a l'impression qu'il y a des choses qui disent « Ah oui, ça je connais, on l'a déjà entendu. » Oui, tu l'as peut-être déjà entendu.
Mais
est-ce que c'est vraiment implanté en toi et tu le pratiques?
Ou est-ce
que tu l'as déjà entendu, donc tu le connais?
Tu es
même capable de citer les versets.
Tu
es même capable de dire, oui, voilà, ça veut dire ça, ça et ça, et tu auras peut-être totalement raison. Maintenant, comment est-ce que c'est vraiment implanté en toi? Comment est-ce que tu vis ces vérités? Parce que vous savez, les fruits nous montrent qui nous sommes réellement. Jésus l'a dit. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et vous pouvez être un bon arbre, mais peut-être que vous n'avez pas encore assez grandi. Mais c'est en regardant nos fruits que nous pouvons savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Ce n'est pas notre connaissance qui fait de nous des gens mûrs. Il y a parfois des personnes, et j'en rencontre certaines, qui ont une mauvaise attitude par rapport à la parole de Dieu. Certaines personnes qui avaient très soif pendant quelque temps, et ils voulaient entendre tout, sur tous les sujets. Puis au bout d'un moment, on a l'impression que, bon, bah voilà, ils sont ce qu'on appelle en français blasés. Ça veut dire que, bon, bah oui, j'ai déjà entendu ça, oui. Vous savez, comme les gens d'Athènes qui voulaient écouter Paul. Paul va à Athènes, puis rencontre des gens. Alors ces gens-là, ils avaient une attitude, bah, oh, bah, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tiens, un nouveau gars, un nouveau truc.
Ah,
on n'a jamais entendu cette histoire de Jésus et résurrection. Raconte-nous un peu plus. Ça va nous divertir. C'est nouveau pour nous.
Vous
voyez, des gens comme ça. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Fais attention à ton attitude par rapport à ça. Il y a des choses que tu dois creuser pendant des années. Jusqu'à temps qu'elle s'implante en toi. Et je vois des gens qui échouent dans leur vie spirituelle parce qu'ils se pensent être à un certain niveau, ils ne le sont pas. Et il y a une sorte d'orgueil qui s'installe et dont il faut être extrêmement prudent, frères et sœurs. Alors, Jésus nous dit à la fin du chapitre 15 que le consolateur, le Saint-Esprit, va être envoyé par Jésus. Et il rendra témoignage de moi. Rappelez-vous le rôle du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Dieu est une trinité. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et c'est important de comprendre que chaque personne de la Trinité a son rôle. Ici, Jésus nous dit clairement que le Saint-Esprit va rendre témoignage de lui. Et il rend témoignage où ça? Sur la terre, bien sûr. Jésus dit, je vais vous l'envoyer. Et là, il va amener un témoignage. En fait, dire que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ce que j'ai fait, c'est la vérité. C'est ça, rendre un témoignage. Rendre un témoignage, c'est j'ai vu des choses et je les rapporte en disant oui, ce sont des faits réels. Oui, c'est bien ça la vérité, c'est bien ce qui s'est passé. Pourtant, l'événement s'est déjà produit. Par exemple, vous avez peut-être pu connaître quelqu'un qui est mort. Et puis, on parle de sa vie sur un événement que peut-être vous êtes seul à connaître. Et vous allez dire, oui, je peux rendre témoignage. Ce jour-là, je l'ai vu, il était dans sa chambre, il pleurait par rapport peut-être à ses enfants ou quoi que ce soit. Il était là et vraiment, ça lui faisait tellement de mal. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc Jésus nous dit ici clairement que le Saint-Esprit qui va venir, eh bien, il va rendre témoignage de lui, de sa mort, de sa résurrection. Et Jésus va nous expliquer comment ça va se produire. Alors, Jésus va partir, il dit qu'il va partir. Il va revenir et qu'il va partir. Alors, les disciples ne comprenaient pas vraiment ce qui allait se passer. Rappelez-vous, ce passage se passe juste quelques dizaines d'heures avant la croix. Jésus était avec ses disciples. Il leur explique tout un tas de choses. Jean 13, 14, 15 et 16, il leur donne beaucoup d'explications. Parce qu'il sait que ses disciples vont passer par un moment de doute. Un moment de remise en question. Un moment où ils vont voir celui qu'ils ont suivi. Être pris par les hommes et tué. Et il sait que ça va être un moment difficile pour ses disciples. Donc Jésus est en train de leur expliquer certaines choses qu'ils comprennent qu'en partie. Nous, nous pouvons les comprendre facilement parce que nous sommes venus après la croix. Et quand il est parlé d'un peu de temps, hein, un peu de temps et vous ne me verrez plus, un peu de temps et vous allez me revoir. Les disciples se disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous, on sait que ce un peu de temps, c'est quand Jésus va être crucifié, qu'il va rester 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Après qu'il va se montrer aux disciples, qu'il va partir au troisième ciel, sceller notre alliance, et après qu'il va revenir apparaître à ses disciples. Nous le savons parce que nous avons le reste des évangiles. Donc pour nous, c'est assez facile de comprendre. Mais Jésus va leur révéler des choses sur le rôle du Saint-Esprit. Et on va relire le verset 7 et le verset 8. Parce que Jésus va nous montrer un des rôles importants du Saint-Esprit. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc il est préférable. Pour vous, c'est beaucoup mieux. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Quand il sera venu, regardez bien ici, il convaincra le monde de, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, on va parler du rôle du Saint-Esprit dans la conviction. Dans la conviction. Une conviction, c'est vraiment montrer à quelqu'un une vérité. Et cette personne le sait. Tu sais la vérité. Et d'après cela, elle doit prendre des dispositions pour sa propre vie. Là, Jésus dit que le Saint-Esprit convaincra le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, ce sont les inconvertis. Il y a un rôle du Saint-Esprit qui est un rôle absolument indispensable sur cette terre envers les inconvertis. Envers les inconvertis. Là, il est bien dit, il convaincra le monde. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas sauvés. Et ce soir, on va parler du salut et de la prière pour le salut. Parce que je veux vous montrer quelque chose qui est très important concernant le salut des hommes. Parce que nous pouvons réunir des gens dans les églises. Nous pouvons essayer de devenir populaires, entre guillemets. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qui se produit malheureusement. On a l'impression que les prédicateurs courent après les chiffres. connaître. Les églises veulent montrer combien de personnes elles ont. Nous sommes tant, nous avons tant d'églises. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais entre le nombre de gens qui viennent prier dans les églises et vraiment ceux qui sont sauvés, eh bien, il y a une différence. Alors, on va jeter un petit coup d'œil dans la première épître à Timothée. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de joindre, de faire relater deux choses. Le rôle du Saint-Esprit et notre vie de prière. Parce que dans ce passage, il nous est révélé des choses. Le passage que nous avons lu dans Jean chapitre 16, qui se relie à notre vie de prière. On va lire 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Jusqu'au verset 4. 1 à 4. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose. Tout le monde dit avant toute chose.
Avant toute chose.
Vous voyez, Paul nous dit, j'exhorte donc avant toute chose. C'est-à-dire en premier, dans les priorités, de faire quoi ? À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alors, ici, le mot qui va m'intéresser, c'est le mot supplication ici. Et on va revenir, on va continuer de lire le texte, après on va revenir en arrière. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4, qui veut, c'est sa volonté parfaite, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Vous allez
me dire quel rapport y a-t-il avec le texte sur le Saint-Esprit? Je vais vous le montrer. Quelque chose de très important. Je vais vous expliquer une chose fondamentale. La Bible nous dit qu'un des rôles du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché. Et écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. Parce que c'est très important dans votre vie de prière. Dites-moi honnêtement, qui prie, donc qui obéit à ce verset en priant pour que des gens soient sauvés régulièrement? Qui prie pour les âmes perdues? Si vous ne priez pas pour les âmes perdues, vous désobéissez à ce verset. Rappelez-vous, qu'est-ce que Paul dit au verset 1? Paul dit avant toute chose. Avant toute chose. Avant toute chose. Avant toute chose.
Avant toute chose.
Paul nous dit bien de prier pour les âmes perdues. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu te demande de prier pour les gens qui ne sont pas sauvés. Dieu, la priorité de Dieu, c'est les âmes perdues. Il faut fortifier le corps de
Christ
régulièrement par l'enseignement de la parole, par des temps dans la présence de Dieu, par des conseils pastoraux, parce que les gens doivent être en bonne santé spirituelle et ils doivent prospérer à tous égards. Mais sachez une chose, la priorité de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Alors souvent, ce qui va se produire, c'est que nous nous décourageons quand nous prions pour les gens. Ça vous est jamais arrivé? Hein, tu pries pour quelqu'un et pendant des années, tu vois rien qui bouge. Ça nous décourage. Quelque part, on se dit, mais mince, je prie pour lui depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. C'est vrai que nous ne verrons pas tous les hommes être sauvés. Mais il y a une clé quelque part. Ou alors, par exemple, nous avons amené quelqu'un, on l'a amené à l'église, La personne commençait à s'approcher du Seigneur. Et on s'est dit, ouais, c'est super, elle est sauvée maintenant. Et puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elle est complètement repartie dans le monde. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça nous frustre quelque part. Vous êtes d'accord? Alors, une des grandes raisons à tout cela, c'est que souvent, quand nous prions pour les autres, particulièrement pour des gens qui ne sont pas sauvés, eh bien, nous manquons de la cible. Nous manquons de prier efficacement pour les gens, parce que nous ne pratiquons pas ce qu'on appelle la supplication. Pourtant, Paul nous en parle dans ce verset de Timothée. Il nous parle de faire des requêtes avant tout et des supplications. Rappelez-vous que la supplication, c'est vraiment chercher l'inspiration dans la prière. Chercher une direction sur comment prier pour une personne. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand nous prions simplement dire Seigneur, sauve-le, Seigneur, sauve-la. Oh Seigneur, oui, vraiment, j'aimerais que tu la sauves parce qu'il me dérange tellement ou elle me dérange tellement que ça serait bien. Une fois qu'elle va être sauvée ou il va être sauvé, ça sera mieux la vie pour moi. Ça c'est pas une prière qui vient du cœur. C'est une prière de ras-le-bol. J'en ai marre, Seigneur, donc s'il te plaît, fais quelque chose. Vous avez remarqué que Dieu ne répond pas à ces prières-là?
Ouais,
Seigneur, ça, j'en ai marre de cette situation. S'il te plaît, fais quelque chose parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol. Il
n'y
a pas de conviction dans ce genre de prière. Ça
ne
vient pas de notre cœur. Et il
n'y
a pas de foi non plus. Donc quand il n'y a pas de conviction, que ça ne vient pas de notre cœur et qu'il n'y a pas de foi, le résultat, c'est zéro. Mais malgré ça, on continue à faire ce genre de choses. Non, commence à creuser. Commence à creuser et à chercher la face de Dieu. Et dire, Seigneur, comment est-ce que je peux vraiment prier efficacement pour cette personne? Parce que tu peux lui parler de Jésus. Et je sais que beaucoup de gens le font. Mais il y a une chose qui est indispensable pour voir quelqu'un d'être sauvé. C'est la conviction de péché. La conviction de péché. Et ça, c'est quelque chose que tu dois demander au Seigneur. Le chemin du cœur de la personne. Pour que le Saint-Esprit puisse mettre une conviction de péché. Tant qu'il n'y a pas de conviction de péché, les gens sont aveugles. Ils ne peuvent pas crier à Dieu pour être sauvés. Et frères et sœurs, la conviction de péché vient de la puissance de Dieu et vient parce que l'Église prie efficacement pour les perdus. Quand l'Église n'est pas motivée pour prier pour les perdus, il n'y a pas de conviction de péché. Parce que la conviction de péché vient de la puissance du Saint-Esprit. Quand vraiment tu es rempli de la présence de Dieu, quand vraiment tu as prié pour quelqu'un d'une façon efficace, la puissance de Dieu va lui tomber dessus. Et là, il va avoir une conviction de péché. Une conviction de péché. Et ça, c'est absolument indispensable. Personne ne peut être sauvé s'il n'a pas une conviction de péché. Et malheureusement, souvent, nous faisons la bêtise d'aller trop vite. Il y a des gens, parfois on leur parle de Jésus. Et on leur dit, tu veux recevoir Jésus, je vais prier pour toi. Oui, mais si la personne n'est pas sous une conviction de péché, ça ne sert à rien de prier pour cette personne. Elle ne sera pas sauvée. Parce que elle ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas convaincue de péché. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il convainc de pécher le monde. C'est que la conviction de péché, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. En fait, la conviction de péché, c'est d'un seul coup le Saint-Esprit qui ouvre les yeux des aveugles spirituels. Parce que la Bible nous dit que Satan, a le Dieu de ce siècle, a aveuglé les cœurs. C'est dans 2 Corinthiens, je crois, 10-10, il me semble. On va regarder ce verset. Sans conviction de péché, il ne peut rien se produire. C'est 4-4, excusez-moi. C'est 4-4. C'est 10, c'est 4-4, oui. Je ne sais jamais si c'est 4-4 ou 10-10. 2 Corinthiens 4-4, merci. Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 4-4, verset 3 et verset 4. Si notre évangile est encore voilé, voilé ça veut dire il y a un voile devant les yeux des gens, il est voilé pour ceux qui périssent. Voyez, quelqu'un qui périt, quelqu'un qui va dans la perdition, quelqu'un qui ne réagit pas à l'évangile, ça veut dire qu'il a un voile devant ses yeux. Ça vous est jamais arrivé d'essayer de secouer quelqu'un pour qu'il se convertisse, entre guillemets, et qu'il ne s'est jamais converti? Pourquoi? Parce que des fois, on veut secouer les gens dans la chair. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas, de temps en temps, amener les gens devant, je dirais, d'une façon claire, en leur disant, il faut que tu te donnes au Seigneur. Mais il y a des fois, on les secoue mal. L'évangile va remettre en question les fondations d'un être humain, ses croyances, tout ce qu'il a vécu jusqu'à sa naissance. Tu l'amènes devant les réalités de son éternité. C'est ce que l'évangile va faire. Amen. Regardez comment vous vous êtes donné au Seigneur. Vous étiez en train de réfléchir sur votre vie. Vous vous posiez des questions. Vous étiez troublés, sans réponse. On était tous pareils, on se disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? On s'est posé mille et une questions. Certains, nous avons réagi très vite quand nous avons entendu le message du salut. D'autres, nous avons été très lents. Nous avons dit non, c'est pas vrai ça. Non, je peux pas croire des choses comme ça. Non, mais on m'a toujours enseigné comme ça. On m'a toujours dit ça sur Dieu. Et d'un seul coup, on te donne un évangile qui est simple, qui révèle la personne de Jésus, et on te dit, tu peux être sauvé. On
ne
comprend pas ce que ça veut dire au départ. Et on te dit, tu peux avoir une relation avec Dieu. Et tu es fermé à cela. Parce que tes yeux étaient voilés au départ. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence ou les cœurs, dans d'autres traductions, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile à la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne complètement aveuglée, parce que quand quelqu'un n'a jamais reçu Jésus, il est aveugle, spirituellement parlant. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne, d'un seul coup, va pouvoir voir la vérité?
Eh
bien, c'est la conviction du Saint-Esprit qui va lui tomber dessus. Certains parmi nous, on a dit, mais je ne sais même pas pourquoi ce jour-là, j'ai donné vraiment ma vie à Jésus, mais il y avait quelque chose. Certains, on s'est donné au Seigneur très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, quand on a entendu l'évangile. Pourquoi et comment, j'en sais rien. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on était prêts. Il y en a d'autres, ça a été une recherche dans votre vie pendant des années et des années et des années. Vous étiez en train de tourner autour du pot, comme on dit si bien en français. Vous tourniez. C'était devant vous. Mais comme vous étiez aveugle, vous avez tourné pendant des années. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais sachez une chose, il y a des convictions de péché qui arrivent rapidement dans la vie des gens. Et à ce moment-là, ils sont prêts à être cueillis pour la moisson de l'évangile. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas sous une conviction. Et c'est là où ton rôle dans la prière est important. Où tu dois chercher la face de Dieu.
Seigneur,
comment je peux prier efficacement pour cette personne, pour ce bien-aimé, pour mon mari, pour ma femme, pour mes collègues, pour mes enfants. Tu sais qu'il y a un chemin quelque part pour que le Saint-Esprit vienne mettre une conviction. Il y a des gens qui ne réagiront jamais à cette conviction, mais c'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a des gens qui savent qu'ils sont pécheurs mais qui refusent l'évangile. Ils disent non, plus tard. Non, pour l'instant je veux continuer à m'amuser. Pourtant ils sont sous une conviction, ils savent qu'ils sont pécheurs, ils savent qu'ils sont en danger de mort, mais il continue à jouer avec la vie. C'est pour ça que ta prière, mon frère, ma soeur, est quelque chose d'indispensable pour voir une personne tomber sur la conviction de péché. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener une personne à voir son état de perdition. Tant que ce n'est pas le cas, cette personne ne pourra jamais se donner à Christ. Vous pourrez lui faire prier la prière du pécheur. Vous pourrez l'emmener à l'église. Mais cette personne adhérera à l'évangile, mais ne sera pas transformée par l'évangile. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'elle pourra se croire sauvée alors qu'elle n'est pas sauvée. La conviction de péché vient en numéro 1. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et derrière tout cela, c'est par la prière des saints. Par votre prière et ma prière que ces choses peuvent se produire. C'est pourquoi Dieu a besoin de notre prière pour les perdus. Quand vous allez faire d'évangélisation, et je sais que pas mal vous êtes impliqués dans le groupe d'évangélisation, c'est une très bonne chose, mais n'y allez pas sans avoir touché le ciel par votre prière. Parce que quand vous allez partager le Seigneur, quand vous allez partager l'évangile de Christ, il faut qu'il y ait la puissance de Dieu sur vous et que les gens soient touchés par les convictions de péché. Ne sortez pas faire de l'évangélisation comme ça, comme si vous alliez à la boutique acheter quelque chose. Ne faites pas ça parce que vous ne verrez pas des fruits puissants. Vous verrez des gens qui peut-être seront d'accord avec vous. Vous allez prier la prière du pécheur avec cette personne, mais elle ne va pas naître de nouveau. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Faites attention à cela, frères et sœurs. Apprenez à vous mettre dans la prière et vraiment à chercher l'inspiration divine pour qu'au moment opportun, le Saint-Esprit puisse vous diriger. Et quand il va commencer à vous diriger, il va vous amener vers des gens qui seront prêts à recevoir des convictions profondes. Et vous verrez beaucoup plus de fruits. C'est une clé importante. Quand vous priez pour les perdus et vous allez témoigner de Jésus, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de la conviction les convictions que tu vas apporter, convictions de péché. J'ai besoin que tu sois là, Saint-Esprit. Je veux t'écouter. Amène-moi vers la bonne personne. Et vous verrez beaucoup plus de résultats comme cela. Quand vous allez partager
Christ,
quelque chose va se produire. Trop de gens ouvrent trop vite leur bouche. Ils sont là, ils parlent de Jésus, ils parlent de Jésus. C'est bien de parler de Jésus. Mais parlons de Jésus en étant inspirés. Parlons de Jésus avec puissance. Parlons de Jésus lorsque ça amène des convictions de péché. Parlons pas de Jésus comme si nous partagions un bout de baguette. Moi, des fois, je vois des gens, tout de suite, ils veulent parler de Jésus à une personne qu'ils viennent de rencontrer. Vous savez, des fois, c'est pas la meilleure méthode. Parfois, c'est pas la plus efficace. L'évangélisation la plus puissante, souvent, c'est quand on crée une relation de confiance avec quelqu'un. Et qu'après on partage l'évangile. Souvent ce qu'on fait, quand on rencontre quelqu'un, par exemple on a un boulot, déjà les premiers jours tu commences à dire oui tu sais Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus d'accord. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que c'est le plus efficace? Ben, des fois vous verrez que non. Parce qu'après les gens vont vous observer. Et souvent, on fait cette erreur-là. Il y a une efficacité. Alors que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors que tu partages Christ au moment opportun. Il y a des moments où tu dois partager. Il y a des moments où tu dois attendre et vivre l'évangile. Tes actions vont parler plus que tes paroles. Il y a des gens qui vont te voir agir et réagir et répondre à des situations. Et ils vont se dire, mais tiens, c'est étonnant toi. Depuis que tu es là, je t'ai observé. Tu fais pas comme les autres font. Et les gens commencent à se poser des questions. Et ils commencent à dialoguer avec toi. Et souvent, c'est une bonne opportunité pour apporter l'évangile. Frères et sœurs, sans conviction de péché. Tu peux faire prier qui tu veux comme tu veux. Il n'y aura rien qui va se produire. C'est souvent ce que nous voyons dans les croisades d'évangélisation. Quand il y a beaucoup de miracles et de guérisons, le cœur des gens va s'ouvrir parce que Dieu utilise des méthodes différentes. Rappelez-vous de cette Samaritaine. Quand Jésus partage l'évangile avec la Samaritaine, il est là, il lui parle de l'eau. Il lui parle de la vie éternelle. Il échange à propos du puits. Et cette femme ne comprend rien. Elle est sous aucune conviction. Et il y a un moment où Christ lui donne cette parole de connaissance. En lui disant, va chercher ton mari. Et cette femme répond, je n'ai pas de mari. Oui, tu en as eu 5, Jésus lui dit, et celui avec lequel tu es maintenant, ce n'est même pas ton mari. Cette révélation a ouvert le cœur de cette femme et a créé une conviction de péché.
D'une
façon incroyable. Et cette femme a cru en Jésus. Et elle a cru en Jésus parce qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une ouverture quelque part de son cœur. Souvent, nous voulons aller trop vite. Tu parles avec une personne. Écoute le Saint-Esprit. Crie dans ton cœur. Saint-Esprit, montre-moi une direction pour que le cœur de cette personne soit touché. Et le Saint-Esprit te donnera souvent quelque chose qui te permettra après de pouvoir partager l'évangile. Mais malheureusement, souvent, nous ne cherchons pas la porte. Nous avons des méthodes et je n'ai rien, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les méthodes d'évangélisation. Au contraire, je trouve ça très bien. Mais il faut quelque chose en plus. Une méthode ne sert à rien appliquée telle quelle. Par contre, derrière, s'il y a de la prière, derrière, s'il y a vraiment une recherche, en demandant vraiment au Saint-Esprit, quel est le chemin du cœur de cette personne? Saint-Esprit, je ne peux rien faire s'il n'y a pas une conviction que tu mets dans le cœur de cette personne. Moi, j'ai vu des gens parfois venir dans le bureau et se donner au Seigneur, mais ils étaient tellement mûrs. Des gens qui... Une fois, je me souviens d'un garçon qui est venu me voir il y a quelques années. Il était venu parce qu'il voulait que quelqu'un prie pour lui. Et il tremblait quasiment. Il était sous une conviction de péché terrible. Vous savez, c'est facile d'amener quelqu'un au Seigneur comme ça. La personne est prête. Mais certainement, derrière tout cela, il y a eu des gens qui ont prié pour cette personne. Il y a eu des gens qui ont semé l'évangile dans le cœur de cette personne. Je ne sais plus si elle avait écouté des émissions de radio, je ne sais plus exactement. Mais il y a eu tout un travail de prière et un puissant travail du Saint-Esprit. Il était une telle conviction qu'on est resté 3 minutes ensemble. Il a reçu le Seigneur. Il est sorti du bureau, il était en paix. Son visage avait changé. Le miracle de la nouvelle naissance avait pris place dans sa vie. Ça, c'est super. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes aperçu que des fois ça se passe même pas du tout comme ça. Et parfois vous priez pour des personnes. Et il y a déjà 10 personnes qui ont prié avec cette personne. Tant qu'il n'y a pas une conviction du Saint-Esprit. Si on fait prier la prière du pécheur à la personne, cette personne ne sera pas transformée. La nouvelle naissance ne sera pas possible. Donc c'est tellement important de chercher la face de Dieu et de chercher la puissance de Dieu, de prier cette supplication, c'est-à-dire de vous mettre dans la présence de Dieu. Et au bout d'un moment, votre cœur sera tellement impliqué que quand vous allez prier pour cette personne, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a une connexion divine qui va se produire. Parfois vous priez pour des gens qui ne sont pas sauvés et vous savez que le Seigneur est en train de les toucher, et à ce moment là il y a quelque chose qui se produit de surnaturel. Eux sont étonnés d'être sous une conviction, mais vous le savez. Vous le savez qu'il s'est déjà passé quelque chose au niveau spirituel. Que le Saint-Esprit est venu. Et des fois, cette personne va vous appeler en larmes. Ça m'est arrivé comme ça une fois. Quelqu'un m'a appelé pour qui je priais depuis des années. Et la personne était en larmes. Elle n'en pouvait plus. Vous savez, quand vous priez pour les gens, d'une façon efficace, il y a une pression qui s'exerce sur eux. C'est la pression de la conviction de péché. La pression de la conviction de péché. Les gens sont là et ils sont en train de faire tous les trucs les plus bizarres du monde. Mais il y a quelque chose qui se produit. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, de parents chrétiens qui se convertissent au bout d'un certain temps. Voyez, par exemple, nos enfants.
Bon,
je dis pas mes enfants à moi, je dis nos enfants en général.
Bon,
vous avez remarqué que certains viennent au Seigneur rapidement. Ils sont petits, ils grandissent quasiment dans le Seigneur et puis, ils continuent en tant qu'adultes.
Mais
il y en a d'autres, ça va être une autre paire de manches, une autre affaire.
Et
ils sont là et d'un seul coup, ils ont l'air de retourner complètement dans le monde et même des fois, ils s'enfoncent dans le monde. Mais quand papa et maman prient pour eux, ça fait des pressions sur eux. Parce qu'ils savent la vérité, ils connaissent la vérité. Ils savent, le message de l'évangile, tu n'as même pas besoin de leur raconter encore. Ils le connaissent de A jusqu'à Z. Ils savent très bien que Jésus est bien Dieu le Fils, ils connaissent très bien l'existence de Dieu. Ils savent très bien que Jésus est mort à la croix pour eux, tu n'as pas besoin de leur redire pour la 50 000e fois. Ils savent très bien que Jésus est ressuscité le troisième jour, ils le savent très bien. Ils savent très bien comment donner leur vie à Jésus. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas. Ils ont certainement fait des expériences étant petits, mais ils ne veulent pas. Continue à prier pour eux. Tu vas voir, il y a des pressions. Des pressions spirituelles. Parce que la passion du Saint-Esprit, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Il a été envoyé sur la terre pour ça. Pour aller chercher les êtres humains. Et quand il y a quelqu'un qui prie, qui se tient à la brèche pour son fils, pour sa fille, pour ses bien-aimés. Croyez-moi, il y a des pressions. Je me souviens un jour d'un témoignage d'un frère que j'aime beaucoup. Mais il avait grandi dans une famille très radicale chrétienne, très pentecôtiste. Mais la maman et le papa, il priait pour lui. Et lui, évidemment, pendant son adolescence, il faisait partie des brebis, le mouton à cinq pattes, vous savez, la brebis galeuse, la brebis qui ne fait pas comme les autres frères et sœurs. Et alors, il faisait tous les coups possibles et imaginables. Boîte de nuit, ivresse constante. Il passait tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche soir à faire n'importe quoi. Et pourtant, il savait que l'évangile était la vérité. Et un jour, ils étaient pas très loin du lac ici. Ils étaient avec des amis dans une voiture. Évidemment, ils étaient tous ivres. Et ils ont eu un terrible accident de voiture. Ils sont tous morts. Sauf lui. Parce que papa et maman priaient. Alors,
il ne
faut pas en arriver jusque-là. Il y a quand même d'autres moyens que Dieu peut utiliser. Mais croyez-moi, quand il a eu cet accident de voiture et qu'il a vu tous ses copains morts, là, il a arrêté de jouer avec la vie. C'est triste à dire, mais parfois, il y a des personnes qui joue avec la vie jusqu'au bout. Mais quand toi, papa ou maman, tu pries pour ces enfants,
sache une chose,
il y a quelque chose de spécial sur eux. Le Saint-Esprit les préservera d'une façon spéciale. Ça, il faut que tu le saches. C'est pourquoi il faut que tu t'accroches à la prière jusqu'à temps de voir le résultat désiré. Et ça passera par la conviction du Saint-Esprit jusqu'au moment où cette conviction sera tellement forte que soit il se passera un événement qui va tout déclencher, soit cette personne, cet enfant commencera à dire j'abandonne. Je peux pas me battre contre Dieu. Parce que sache une chose. Quand tu pries pour lui, alors qu'il connaît la vérité, il est en train de résister. Mais quand il résiste, il sait qu'il se bat contre Dieu et qu'il ne gagnera pas. Il le sait. C'est pourquoi ne te décourage pas. Mais au contraire, continue à proclamer la parole de Dieu dans sa vie. Continue à proclamer son salut. Remercie le Saint-Esprit pour la conviction de péché. Parce que sous pression spirituelle, il ou elle se donnera à Christ jusqu'au bout. Et tu seras heureux en disant, Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui répond à la prière. Même dans les pires situations, Dieu répondra à ta prière. Mais continue à mettre des pressions en déclarant la parole de Dieu sur ton fils ou sur ta fille. N'abandonne jamais. Parce que c'est là où tu le verras, où tu la verras venir. Au Seigneur. En disant vraiment. Et dans son témoignage, il dira, je le savais que c'était la vérité. Mais je résistais. Et je résistais. Et je résistais. Mais je sais que maman priait pour moi tous les jours. Je sais que papa priait pour moi tous les jours. Et je savais qu'un jour, il fallait que je donne ma vie à Jésus. Ça, c'est des belles victoires. Mais des fois ça n'arrive pas en deux jours. Des fois ça arrive en plusieurs années. Des fois ça met très longtemps à venir. Mais ne te décourage jamais. Attache-toi à la prière. La prière qui cherche vraiment Dieu. La prière qui proclame la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui crée ses convictions. C'est ce qui garde une pression de plus en plus forte sur celui qui doit ouvrir ses yeux. Et il ouvre ses yeux et s'effondre devant Dieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est ce qui amène une transformation tant qu'il n'y a pas de conviction de péché. Ça veut dire qu'il y a aveuglement. Tant qu'il y a encore de la résistance contre cette conviction de péché. Ça veut dire qu'il y a aveuglement. Et ce qui amènera à ce que cet aveuglement soit entièrement enlevé des yeux, c'est le fait que tu persévères jusqu'au bout dans la prière. Alléluia. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous prions, Seigneur, pour tous ces enfants qui sont peut-être rebelles à l'Évangile, qui sont en train de se perdre dans ce monde. Et nous voulons déclarer ta parole. Nous voulons déclarer le salut sur ces enfants, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te remercions pour les convictions de péché. Et nous comprenons que sans conviction de péché, il ne peut pas y avoir de repentance sincère. Il ne peut pas y avoir de salut. Il ne peut pas y avoir de transformation. Ô Père, je veux te louer pour cela. Je te remercie pour ta bonté et ta puissance. Merci de nous aider à persévérer dans la prière pour les inconvertis, pour voir, Seigneur, une réelle conviction de péché se produire dans leur cœur, afin qu'ils crient au Seigneur et que, Seigneur, tu puisses leur révéler qui est Jésus et qui se donne à toi. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Gloire à Dieu et persévérez, frères et sœurs. N'acceptez jamais la défaite. Amen.
Amen.
Bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.